La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Souvent, des gens nous disent qu'ils comprennent mal comment fonctionne un orchestre. Sur scène, ils se rendent compte que les solos se succèdent, que les parties collectives arrivent comme si c'était écrit à l'avance, alors que c'est jamais le cas. Et ils se posent des questions.
Comme rien n'apparaît de façon évidente quand on est spectateur, eh bien, on va vous expliquer un petit peu les arcanes des coulisses.
Simplement par quelques exemples, soit des illustrations d'anecdotes célèbres qui expliquent ce côté insolite qu'on peut entendre dans tel ou tel disque, soit en vous invitant à quelques répétitions. Et là, vous allez voir comment ça fonctionne quand vous n'êtes pas là. C'est-à-dire que sur scène, le comportement des gens est le résultat de plus ou moins de travail. Quelquefois très peu, quelquefois beaucoup, ça dépend. Et là, en public, ça fonctionne au regard, essentiellement.
Donc on vous invite à rentrer dans l'intimité d'un orchestre.
Et même de plusieurs, et nous allons commencer par rester un bon moment avec le personnage le plus célèbre du jazz, celui dont on disait qu'un de ses solos contenait l'histoire du jazz tout entière.
Allez, cherchez bien, vous allez gagner parce que vous allez trouver.
Bien sûr, vous allez trouver. Il s'agit naturellement de
Louis Armstrong.
Voici un disque insolite.
Figurez-vous qu'il y a un certain Clarence Babcock. Louis Armstrong était en train de faire son solo et tout d'un coup, il l'interrompt. Alors Louis Armstrong lui dit « Mais pourquoi tu m'interromps ?»« Ah, mais il dit, je viens de la Jamaïque, mon vieux, et je ne voulais pas vous interrompre, mais un de mes compatriotes m'a dit qu'on mangeait des tripes ici. » Alors, madame, c'est Lil Armstrong, la femme de Louis Armstrong qui tient le piano. « Madame, préparez-moi donc un plat de ce que vous appelez des tripes, chez nous, on dit du gras double. Et je joue un peu de Juana Mimiaka jazz, moi. Voilà, je joue ça. » Et Lil Armstrong dit « Madame ? Bon, allez, servez chaud, mes enfants. »
Et puis le morceau reprend.
Voilà.
Alors évidemment, quand on entend ça, on se demande vraiment qu'est-ce que c'est que ce cheveu sur la soupe. Eh bien, naturellement...
C'est le cheveu sur la Juana Mimiaka.
Ça vient sans doute d'un incident qui a eu lieu à une autre occasion, avec l'irruption d'une sorte d'hurlu-birlu à la recherche de son déjeuner. Ça arrive quelquefois qu'il y ait des choses incongrues comme ça. Alors ils l'ont retraduite plus tard dans ce morceau. King of the Zulu.
Going on here. Madam, fix me one out of those things you call chitlin, but I call them in a tube, and I play one of me native jazz tunes.
Tu remarqueras que le trublion du disque que nous venons d'entendre a un magnifique accent qui est en fait l'accent de la Jamaïque. Il faut savoir que chez les Noirs américains, cette connotation de cet accent un peu caricatural équivaut un peu à l'accent que prenait Fernand Reynaud pour faire le niais et qu'on retrouve à Genève avec Ouin Ouin ou en Angleterre avec l'Irlandais Paddy.
Et c'est en gros l'accent dont on se moque un peu.
Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce Hot Five de Louis Armstrong nous renvoie naturellement à un événement particulier parce que quand le disque que vous allez entendre est sorti, il a vraiment complètement étonné tout le monde.
Oui, il a fait un malheur parce que c'était la première fois que quelqu'un faisait du scat.
On a appelé ça scat par la suite, mais en réalité, c'était totalement incongru dans le contexte de l'époque.
Alors, il s'agit de quoi ? Le scat, peut-être vous savez ce que c'est. C'est une façon de dire des mots sans aucune signification, mais qui sont complètement scandés. Et alors, bien sûr, ben, les Noirs s'en sont emparés. Mais voilà, voilà l'origine de l'affaire.
Et l'incident qui a causé ce que vous allez entendre a été raconté par Milton Mezereau dans son fameux livre « La rage de vivre », qui est un livre de poche et que nous vous recommandons chaudement.
Alors voilà ce qu'il écrit. Un jour, grâce à une petite copine de chez Hockey, je mis la main sur un trésor tel que j'en restais pétrifié. Donc, il parle d'un disque, naturellement. C'était une édition restreinte réservée aux détaillants du célèbre Heebie-Jeebies de Louis Armstrong. Une date dans l'histoire du disque, puisque c'est la première fois que le vieux Get Mouse, c'est le deuxième ou troisième surnom de Louis Armstrong, a enregistré du scat. Par la suite, Louis nous raconta comment c'était arrivé. Il était en train de faire le clown devant le micro et venait d'entamer le vocal quand il lâcha le papier où étaient écrites les paroles. Eh ben, il dut inventer le reste pour finir le chorus. Nous avons cru rêver en l'entendant chanter « I got the heebies, I mean the jeebies », puis se lancer dans une suite de riffs qui était une version chantée de son jeu de trompette. Voilà, c'est comme si vous y étiez.
Thank you.
Ah oui, il faut savoir que le heebie-jeebies, en fait, c'était une danse, une nouvelle danse, il en sortait une tous les trois jours à l'époque, et que après ce disque, beaucoup de gens se rencontraient dans la rue, à Harlem, et se saluaient en disant « j'ai le heebies », et l'autre répondait « j'ai le jeebies », et ils commençaient à se scatter à la face l'un de l'autre. Ça durait un certain temps comme ça. Et à propos des Hot Five, toujours, il y a la fameuse histoire du contrat. Il y a la fameuse histoire du contrat. Lou Armstrong était à l'époque en exclusivité, sous contrat, pour la maison OK. Et puis naturellement, il était sollicité par d'autres marques qui lui disaient « Venez, on ne donnera pas votre nom, mais tout le monde le saura, donc le disque se vendra bien. » Et puis ça fera.
Alors Armstrong, il était quand même un peu soucieux, il avait bien envie de le faire, donc il décide de le faire. Et il se dit « Je vais commencer par une sacrée quantité de canards, comme je n'ai pas l'habitude d'en faire. » Je dirais « Bah, attendez, ce type, il joue comment? C'est pas moi !» Et il enregistre le disque et il commence par... Enfin bref. Et puis après, il joue tout à fait bien. Il essaye de déguiser un peu son style. Il n'y arrive pas vraiment. Bref, le disque est enregistré.
Et puis après, il est publié. Et quelques jours après, Lou Armstrong est convoqué chez OK, dans le bureau du manager.
Aïe, aïe, aïe.
Qui lui fait écouter le disque, qu'il regarde et qui lui dit « C'est qui ça ?»
Oh là là.
Lou Armstrong était très ennuyé, il a répondu « Écoutez, je ne sais pas qui c'est, mais je vous promets que je recommencerai plus.
» Voilà donc « Drop That Sack », ce fameux disque. Louis Armstrong et ses musiciens, ben comme tous les musiciens pros, ils sont sur les routes, dans les hôtels, à longueur de temps. C'est donc à la fois une vie souvent très fatigante, mais en même temps, il y a une espèce de vie d'orchestre, un peu comme une vie de famille qui se crée par la force des choses, je dirais. Et ils ont parfois besoin vraiment de s'amuser. pas seulement de jouer, ils adorent ça, mais aussi de s'amuser, d'avoir des espèces de fous rires de gamins. Et bien là, on va vous en montrer un.
Ce disque, ils l'ont appelé « Laughing Louis », c'est-à-dire « Louis qui rit », en fait. Et quand on entend ça, on se dit « ça, ça a dû se passer sur scène un soir ». Et ils s'étaient tellement amusés dans cette circonstance-là, ils en ont tellement parlé après, sans doute, qu'ils ont décidé d'en faire un morceau et de l'enregistrer.
What do you know about that? Now, good evening, ladies and gentlemen. I want to tell y'all that I'm going to do a little practicing this evening on this little Selma trumpet. Bless his little heart. Now, wait a minute. Before I swing out, I want to check this little number about Laughing Louie, Laughing Louie. Look out the gate. Laughing Louie. I'm Laughing Louie. Yeah, man. Now, I'm Laughing Louie. Yes, sir. Ain't no fool. Laughing Louie, boy. Look y'all, I wake up every morning and I have to laugh because I look on the wall and I see my photograph. Yeah, man, they call me Laughing Louie, but you cats must play yourself because you won't let me swing. Look out there. Yeah. Yeah, that's all right, Gabe. Now, y'all think you're something, don't you? But listen, y'all won't let me play some hot riffs for you this evening, and you won't let me sing for you, but you must listen at this beautiful number, one of them old-time good ones. Listen at this.
Take off, Gabe. Mello. Look out there, Bob!
Now get a load of this now, you cat.
Change him, B-Wop.
Little old stuff there, I get it. Look out there, man. You had the beautiful part, listen.
Bien sûr, les circonstances dans lesquelles on arrive à pénétrer vraiment dans la vie d'un orchestre, dans sa vie intérieure, je dirais, c'est lors des répétitions et des mises au point.
Et là, vous allez entendre l'enregistrement de la mise au point avant un disque. Et c'est avec des gens qui ne sont pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'une rencontre Duke Ellington et Louis Armstrong.
C'est un disque qu'ils ont fait ensemble, c'est-à-dire que Louis Armstrong a gardé son orchestre qui s'appelait le All Stars et le piano a simplement été tenu par Ellington et on a joué des morceaux d'Ellington qui n'étaient pas du tout dans le répertoire courant pratiqué par Louis Armstrong naturellement. Et donc ça a nécessité quelques petites
aménagements,
voilà, discours, conversations, également avec le clarinettiste parce que bien entendu Louis avait fait revenir son clarinettiste de l'époque précédente qui était Barney Bigard qui était la star de l'orchestre Ellington dans une période encore antérieure.
Tout ce petit monde se connaissait.
Oh oui, ça c'est une famille, hein. C'est plus qu'un village, c'est vraiment une famille. Et le morceau dont vous allez entendre la fabrication en quelque sorte, qui est Black and Tan Fantasy.
C'est un morceau qui évoque par certains côtés le classique et le jazz.
Oui, le classique en raison de la chute du morceau, qui est une citation de marche funèbre célèbre. Et c'est très curieux là, d'entendre Barney Bigard réapprendre le deuxième thème du morceau. C'est par là d'ailleurs que commence l'enregistrement. Ça s'appelle un making of. Ils ont bien eu raison de laisser tourner les bandes pendant que les musiciens travaillaient, parce que c'est passionnant. Et naturellement, ça se termine sur le morceau lui-même joué en entier, d'une manière absolument, je dois dire, magnifique.
It's all right. Right there. It's all right.
Also get the clicks when it's down there.
Okay. They'll leave it right there too.
All right, here we go. Take three.
What goes? You got it or what?
Okay. Duke Scott.
You got the break and everything, huh?
Yeah.
Well, I got the first break. Herbert's got the second break in Jaloux.
Oh, yeah.
Well, after this thing, you got the breaks and this and everything?
Yeah.
You come in on your jazz solo, you know?
Top, huh? Let's sound in the first break.
Why?
Oh,
okay, Duke. Stand by. Take four. And what?
Take five.
What's your tempo? Here we go.
Well, tempo don't mean a difference. Make no difference in the introduction. Nobody dancing. They didn't get out of their seats yet.
Make them.
Six.
Thank you.
Vous avez entendu, naturellement, ce n'est pas la version définitive. C'est le dernier brouillon, ou l'avant-dernier, avant qu'on enregistre pour de bon le morceau qui sera finalement publié. Et c'est très amusant de voir, au fil du déroulement de cette répétition, comment, en fin de compte, c'est Duke Ellington lui-même au piano qui a joué le fameux deuxième thème, Bigard l'ayant complètement laissé tomber.
Alors ça, c'était les musiciens américains.
Les grands, les immenses.
Et maintenant on va aller voir un peu comment ça se passe chez les musiciens français. Alors, l'avantage pour vous, c'est comme ils discutent et quelquefois ils disputent en français, vous allez tout comprendre, tout entendre cette fois.
Ah oui, ça va vous faire du bien, nous pensons.
Il s'agit de l'orchestre de Charquet & Co.
qui, sous la direction de Jean-Pierre Morel, dit Charquet, qui y jouait du cornet, était dans un état de perpétuel bouillonnement qui faisait dire que cet orchestre était en état de dissolution permanente.
Une sorte d'effervescence dont on ne sait pas très bien comment ça va se terminer à chaque fois.
Il faut dire que les groupes de jeunes musiciens français, découvrant le jazz et commençant à s'en imprégner, ont très souvent eu des comportements collectifs de ce genre, parce qu'il y régnait quand même une franche gaieté. Sauf quand il y avait un leader absolument invivable, et là l'orchestre ne durait pas très longtemps. Mais il faut dire que Charquet & Co, même en état de dissolution permanente, a quand même tenu pas mal d'années.
Et voici maintenant des faux départs. Qu'est-ce que c'est qu'un faux départ? C'est que tout le monde démarre, puis il y a quelqu'un qui fait quack, boum, et puis il faut tout recommencer.
Voilà, ou alors on s'est trompé de tempo, un type qui est entré de travers, enfin bref.
Voilà.
Et ça se passe une fois de plus à une séance d'enregistrement. Et cette plage a été tellement en ébullition que les musiciens ont décidé de la publier dans le disque avant la version définitive du morceau.
Ambiance.
Vous allez donc entendre Faux départ sur Kansas City Kitty. Et puis vous allez entendre enfin Kansas City Kitty, le morceau lui-même. Quant à Kansas City Kitty elle-même, il paraît qu'on pouvait l'avoir pour moins cher que le prix du disque. Vous vous rendez compte?
Quelle horreur!
Non, arrêtez pas. Arrêtez pas.
Et là, on reste en France. On reste en France, mais on va vers le cinéma. Figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui a fait un film absolument remarquable sur le jazz, une sorte de tour du jazz avec les plus grands noms. Il s'appelle Louis Panassier. Et ce film s'appelle « L'aventure du jazz ».
Le fil conducteur de ce film, c'est les propos que tient le père du cinéaste, Hugues Panassier, qui est le grand musicologue que tout le monde connaît.
Quand j'ai parlé de grands noms tout à l'heure, c'était pas n'importe qui. Justement, Duke Ellington, Louis Armstrong.
Joe Jones, Milt Buckner.
Les hyper connus qui ont tous accepté de jouer gratuitement alors qu'ils étaient sous contrat. Ils se sont entendus avec leur producteur demandant que là, il y ait une exception, pour être dans ce film inoubliable.
Il y a quelques producteurs qui n'ont pas voulu fonctionner comme ça. Honte soit sur eux. Par exemple, celui de Count Basie, qui est opposé. Mais la plupart se sont laissés faire. Le film est magnifique, naturellement. Et puis, 30 ans après ce tournage, le film a été numérisé, et puis il a recommencé à être projeté, et là, le cinéaste qui assurait les projections s'est trouvé devant un problème qui était que ça commençait à dater et qu'il était important d'expliquer aux gens que le jazz n'était pas mort pour autant à l'époque de ce tournage. Et parallèlement, il y a eu une rencontre entre ce cinéaste et un orchestre. Cet orchestre était celui d'Eddie Moustier Stompers, dont nous avons eu l'occasion de passer par-ci par-là quelques interprétations enregistrées. Et cette rencontre a déclenché une sorte de coup de foudre du cinéaste en tournant un épilogue pour mon film avec ces gens-là. Je tiens la preuve que le jazz continue.
Qu'il n'est pas mort, qu'il a encore un avenir.
Et puis je tiens aussi la preuve que mon film n'est donc pas un mausolée, mais un témoignage. Et voilà ce qu'il a écrit à l'époque.
Qu'est devenu le jazz qu'aimaient Duke Ellington et Hugues Panassier? Eh bien, réponse avec les propos et la musique lumineuse d'un groupe de musiciens amateurs français. Bien sûr, ils parlent
de l'orchestre du Moustier Stompers. Et voici la bande sonore de la séquence épilogue de ce film, telle qu'elle a été tournée et montée il y a maintenant un certain temps. Vous entendrez des interviews, des interventions de quelques musiciens de l'orchestre, et puis aussi pas mal de musique, puisque c'est une séquence qui a été faite en continuité, un peu à l'américaine.
N'importe qui, d'un culte au point de vue solfège, peut retenir un air et au moins le siffler. C'est le trombone.
Une foi. Chacun a ses modèles dans la tête, même si ce ne sont pas exactement les mêmes. Mais tout le monde a du modèle du jazz authentique dans la tête et on le fait avec foi. Et je pense que c'est la centrale. C'est un esprit, un état d'esprit.
C'est une musique qui vibre, qui dégage de l'émotion.
Pour moi, le jazz, c'est du swing, du blues et de l'improvisation.
Il ne faut pas qu'elle sombre dans l'intellectualisme, dans le mécanisme, dans la virtuosité gratuite.
Il y a des morceaux de jazz, des morceaux historiques, bien sûr, que j'ai écoutés à mes débuts, j'avais 16 ans. Et maintenant, presque 50 ans après, quand je les écoute, j'ai le même frisson, au même moment.
Mmh.
sont des amateurs, c'est-à-dire des gens qui aiment, et après des musiciens. Et on ne fait que ce qu'on aime.
Quelquefois, on n'a pas de mots pour dire ce qu'on a à dire. Le jazz venait mettre à la place des mots les mots que je n'avais pas.
Le jazz qu'on fait est une musique de l'instant. C'est une musique qui se crée à l'instant et donc elle est réussie ou pas.
Mes états d'âme et la musique avaient énormément à voir ensemble. Boum badaboum, c'est sans doute les premiers rythmes qu'on entend, proches des rythmes cardiaques, proches de tout ce qui peut se passer chaque fois que notre rythme personnel s'accélère. Trouble, trouble, I've got it all on my head. Ça va se nicher dans le ventre, hein, ces sons-là.
Le jazz, c'est une passion. C'est donc quelque chose qu'on aime vraiment profondément.
On parle tous avec les mêmes références et on se retrouve dans les mêmes émotions.
Comme vous voyez, la musique de jazz a été plutôt bien digérée par les musiciens français puisque vous avez entendu d'abord le plaisir qu'ils ont à la pratiquer et ensuite un exposé de leur philosophie de cette musique, de la manière dont ils la conçoivent. Et on se rend compte que pour beaucoup d'entre eux, c'est leur propre personnage qui s'exprime en musique. Et maintenant, nous allons retourner en Amérique pour terminer cette émission.
Avec Arte Tum. On en a souvent parlé d'Arte Tum. D'abord, bon, il est aveugle, mais il n'a même pas besoin de voir. Il sait tout avec ses doigts. C'est un pianiste éblouissant.
C'est certainement le plus grand virtuose de son temps. Et là, nous allons l'entendre en trio avec Tiny Grimes, le guitariste, et Slam Stewart, le bassiste. On a déjà passé un morceau de ce trio la semaine dernière, puisqu'on parlait de Tiny Grimes. Et en fait, on disait que ce trio ne répétait jamais. Alors c'est à la fois vrai et faux. Là, on est dans une préparation.
Un petit échauffement.
D'abord un petit échauffement, exactement, que nous allons entendre. Et là, il est très probable qu'ils ne sont même pas donné la peine de dire « on joue ceci, on joue cela ». C'était intuitif total. Et puis après, ils vont un peu travailler un très joli morceau qui s'appelle « If I Had You ». Et sans doute en préparation d'un enregistrement. Et vous allez voir que ça va très très vite, qu'on ne se dit pas grand-chose, que tout semble fonctionner par...
par osmose.
Thank you.
C'était La Planète du Jazz.
À la planète prochaine.